De nouvelles de contes du lundi, Alphonse Daudet. La dernière classe, récit d'un petit Alsacien. Ce matin-là, j'étais très en retard pour aller à l'école et j'avais grand-peur d'être grondée. D'autant que M. Hamel nous avait dit qu'il nous interrogerait sur les participes. Et je n'en savais pas le premier mot. Un moment, l'idée me vint de manquer la classe et de prendre ma course à travers champs. Le temps était si chaud, si clair, on entendait les merles siffler à la lisière du bois. Et dans le pré ripère, derrière la scierie, les Prussiens qui faisaient l'exercice. Tout cela me tentait bien plus que la règle des participes, mais j'eus la force de résister et je courus bien vite vers l'école. En passant devant la mairie, je vis qu'il y avait du monde arrêté près du petit grillage aux affiches. Depuis 2 ans, c'est de là que nous sont venues toutes les mauvaises nouvelles, les batailles perdues, les réquisitions, les ordres de la commande d'entour. Et je pensais, sans m'arrêter, qu'est-ce qu'il y a encore ? Alors que je traversais la place en courant, le forgeron Warter, qui était là avec son apprenti en train de lire l'affiche, me cria « Ne te dépêche pas tant, petit, tu arriveras toujours assez tôt à ton école. » Je crus qu'il se moquait de moi, et j'entrais tout essoufflé dans la petite cour de M. Hamel. D'ordinaire, au commencement de la classe, il se faisait un grand tapage qu'on entendait jusque dans la rue. Les pupitres ouverts, fermés, les leçons qu'on répétait très haut tous ensemble en se bouchant les oreilles pour mieux apprendre et la grosse règle qui tapait sur la table.
« Un peu de silence !»
Je comptais sur tout ce train pour gagner mon banc sans être vu, mais justement ce jour-là, tout était tranquille, comme un matin de dimanche. Par la fenêtre ouverte, je voyais mes camarades déjà rangés à leur place et M. Hamel qui passait et repassait avec la terrible règle en fer sous le bras. Il fallut ouvrir la porte et entrer au milieu de ce grand calme. Vous pensez si j'étais rouge et si j'avais peur ? Eh bien, non. M. Hamel me regarda sans colère et me dit très doucement « Va vite à ta place, mon petit Franz. Nous allions commencer sans toi. » J'enjambai le banc et je m'assis tout de suite à mon pupitre. Alors seulement, un peu remis de ma frayeur, je remarquai que notre maître avait sa belle redingote verte, son jabot plissé fin et la calotte de soie noire brodée qu'il ne mettait que les jours d'inspection ou de distribution de prix. Du reste, toute la classe avait quelque chose d'extraordinaire et de solennel. Mais ce qui me surprit le plus, ce fut de voir, au fond de la salle, sur les bancs qui restaient vides d'habitude, des gens du village, assis et silencieux, comme nous. Le vieux Hauser, avec son tricorne, l'ancien maire, l'ancien facteur, et puis d'autres personnes encore. Tout ce monde-là paraissait triste. Et Hauser avait apporté un vieil abécédaire mangé au bord, qu'il tenait grand ouvert sur ses genoux, avec ses grosses lunettes posées en travers des pages. Pendant que je m'étonnais de tout cela, M. Hamel était monté dans sa chaire, et de la même voix douce et grave dont il m'avait reçu, il nous dit « Mes enfants, c'est la dernière fois que je vous fais la classe. L'ordre est venu de Berlin de ne plus enseigner que l'allemand dans les écoles de l'Alsace et de la Lorraine. Le nouveau maître arrive demain. Aujourd'hui, c'est votre dernière leçon de français. Je vous prie d'être bien attentif. » Ces quelques paroles me bouleversèrent. Ah ! Les misérables, voilà ce qu'ils avaient affiché à la mairie. Ma dernière leçon de français. Et moi qui savais à peine écrire, je n'apprendrais donc jamais, il faudrait donc en rester là. Comme je m'en voulais maintenant du temps perdu, des classes manquées à courir les nids ou à faire des glissades sur la Sarre. Mes livres que tout à l'heure encore je trouvais si ennuyeux, si lourds à porter, ma grammaire, mon histoire sainte, me semblaient à présent de vieux amis qui me feraient beaucoup de peine à quitter. C'est comme M. Hamel. L'idée qu'il allait partir, que je ne le verrais plus, me faisait oublier les punitions, les coups de règle. Pauvre homme, C'est en l'honneur de cette dernière classe qu'il avait mis ses beaux habits du dimanche. Et maintenant, je comprenais pourquoi ces vieux du village étaient venus s'asseoir au bout de la salle. Cela semblait dire qu'ils regrettaient de ne pas y être venus plus souvent, à cette école. C'était aussi comme une façon de remercier notre maître de 40 ans de bons services et de rendre leur devoir à la patrie qui s'en allait. J'en étais là de mes réflexions quand j'entendis appeler mon nom. C'était mon tour de réciter. Que n'aurais-je pas donné pour pouvoir dire tout au long cette fameuse règle des participes, bien haut, bien clair, sans une faute. Mais je m'embrouillais au premier mot et je restais debout à me balancer dans mon banc, le cœur gros, sans oser lever la tête. J'entendais Monsieur Hamel qui me parlait. « Je ne te gronderai pas, mon petit Franz. Tu dois être assez puni. » Voilà ce que c'est. Tous les jours, on se dit « Bah, j'ai bien le temps, j'apprendrai demain. » Et puis, tu vois ce qui arrive. Ah, ça a été le grand malheur de notre Alsace de toujours remettre son instruction à demain. Maintenant, ces gens-là sont en droit de nous dire « Comment ? Vous prétendiez être français et vous ne savez ni lire ni écrire votre langue ?» Dans tout ça, mon pauvre Franz, ce n'est pas encore toi le plus coupable. Nous avons tous notre bonne part de reproches à nous faire. Vos parents n'ont pas assez tenu à vous voir instruit. Ils aimaient mieux vous envoyer travailler à la terre ou aux filatures pour avoir quelques sous de plus. Moi-même, n'ai-je rien à me reprocher ? Est-ce que je ne vous ai pas souvent fait arroser mon jardin au lieu de travailler ? Et quand je voulais aller pêcher des truites, est-ce que je me gênais pour vous donner congé ? Alors, d'une chose à l'autre, M. Hamel se mit à nous parler de la langue française, disant que c'était la plus belle langue du monde, la plus claire, la plus solide, qu'il fallait la garder entre nous et ne jamais l'oublier. Parce que, quand un peuple tombe esclave, tant qu'il tient bien sa langue, c'est comme s'il tenait la clé de sa prison. Puis, il prit une grammaire et nous lut notre leçon. J'étais étonnée de voir comme je comprenais. Tout ce qu'il disait me semblait facile, facile. Je crois aussi que je n'avais jamais si bien écouté et que lui non plus n'avait jamais mis autant de patience à ses explications. On aurait dit qu'avant de s'en aller, le pauvre homme voulait nous donner tout son savoir, nous le faire entrer dans la tête d'un seul coup. La leçon finie, on passa à l'écriture. Pour ce jour, M. Hamel nous avait préparé des exemples tout neufs, sur lesquels était inscrit en belles rondes France, Alsace, France, Alsace. Cela faisait comme des petits drapeaux qui flottaient tout autour de la classe, pendus à la tringle de nos pupitres. Il fallait voir comme chacun s'appliquait. Et quel silence ! On n'entendait rien que le grincement des plumes sur le papier. Un moment, des hannetons entrèrent, mais personne n'y fit attention. Pas même les tout-petits qui s'appliquaient à tracer leurs bâtons avec un cœur, une conscience, comme si cela encore était du français. Sur la toiture de l'école, des pigeons roucoulaient tout bas et je me disais en les écoutant « Est-ce qu'on ne va pas les obliger à chanter en allemand, eux aussi ?» De temps en temps, quand je levais les yeux de dessus ma page, je voyais M. Hamel, immobile dans sa chaire et fixant les objets autour de lui, comme s'il avait voulu emporter dans son regard toute sa petite maison d'école. Pensez, depuis 40 ans, il était là à la même place, avec sa cour en face de lui et sa classe toute pareille. Seulement, les bancs, les pupitres s'étaient polis, frottés par l'usage. Les noyers de la cour avaient grandi et le houblon qu'il avait planté lui-même enguirlandait maintenant les fenêtres jusqu'au toit. Quel crève-cœur ça devait être pour ce pauvre homme de quitter toutes ces choses et d'entendre sa sœur qui allait, venait, dans la chambre au-dessus, en train de fermer leur mal. Car il devait partir le lendemain, s'en aller du pays pour toujours. Tout de même, il eut le courage de nous faire la classe jusqu'au bout. Après l'écriture, nous eûmes la leçon d'histoire. Ensuite, les petits chantèrent tous ensemble « Ba, be, bi, bo, bu ». Là-bas, au fond de la salle, le vieux Hauser avait mis ses lunettes. Et tenant son abécédaire à deux mains, il épelait les lettres avec eux. On voyait qu'il s'appliquait aussi. Sa voix tremblait d'émotion. Et c'était si drôle de l'entendre que nous avions tous envie de rire et de pleurer. Ah, je m'en souviendrai de cette dernière classe. Tout à coup, l'horloge de l'église sonna midi, puis l'Angélus. Au même moment, les trompettes des Prussiens qui revenaient de l'exercice éclatèrent sous nos fenêtres. Monsieur Hamel se leva, tout pâle dans sa chair. Jamais il ne m'avait paru si grand. « Mes amis, » dit-il, « mais je... » Mais quelque chose l'étouffait. Il ne pouvait pas achever sa phrase. Alors il se tourna vers le tableau, prit un morceau de craie et en appuyant de toutes ses forces, il écrivit aussi gros qu'il put « Vive la France !» Puis, il resta là, la tête appuyée au mur. Et sans parler, avec sa main, il nous faisait un signe. « C'est fini. Allez-vous-en. » Avec 300 000 francs que m'a promis Girardin. Ne vous est-il jamais arrivé de sortir de chez vous le pied léger et lameureuse et après 2 heures de course dans Paris de rentrer tout mal en train, affaissé par une tristesse sans cause, un malaise incompréhensible? Vous vous dites « Qu'est-ce que j'ai donc ?» Mais vous avez beau chercher, vous ne trouvez rien. Toutes vos courses ont été bonnes, le trottoir sec, le soleil chaud, et pourtant, vous vous sentez au cœur une angoisse douloureuse, comme l'impression d'un chagrin ressenti. C'est qu'en ce grand Paris, où la foule se sent inobservée et libre, on ne peut faire un pas sans se heurter à quelque détresse envahissante qui vous éclabousse et vous laisse sa marque en passant. Je ne parle pas seulement des infortunes qu'on connaît, auxquels on s'intéresse, de ces chagrins d'amis qui sont un peu les nôtres et dont la rencontre subite vous serre le cœur comme un remords, ni même de ces chagrins d'indifférents qu'on n'écoute que d'une oreille et qui vous navrent sans qu'on s'en doute. Je parle de ces douleurs tout à fait étrangères, qu'on n'entrevoit qu'au passage, en une minute, dans l'activité de la course et la confusion de la rue. Ce sont des lambeaux de dialogues saccadés au train des voitures, des préoccupations sourdes et aveugles qui parlent toutes seules et très haut, des épaules lasses, des gestes fous, des yeux de fièvre, des visages blêmes gonflés de larmes, des deuils récents mal essuyés au voile noir, puis des détails furtifs et si légers. Un collet d'habits brossés, usés, qui cherche l'ombre, une serinette sans voix tournant à vide sous un porche, un ruban de velours au cou d'une bossue, cruellement noué et bien droit entre les épaules contrefaites. Toutes ces visions de malheur inconnu passent vite, et vous les oubliez en marchant, mais vous avez senti le frôlement de leur tristesse. Vos vêtements se sont imprégnés de l'ennui qu'ils traînent après eux, et à la fin de la journée, vous sentez remuer tout ce qu'il y a en vous, d'ému, de douloureux, parce que, sans vous en apercevoir, vous avez accroché au coin d'une rue, au seuil d'une porte, ce fil invisible qui lie toutes les informations et les agite à la même secousse. Je pensais à cela l'autre matin, car c'est surtout le matin que Paris montre ses misères, en voyant marcher devant moi un pauvre diable étriqué, dans un paletot trop mince qui faisait paraître ses enjambées plus longues et exagérer férocement tous ses gestes. Courbé en deux, tourmenté comme un arbre en plein vent, cet homme s'en allait très vite. De temps en temps, sa main plongeait dans une de ses poches de derrière et y cassait un petit pain qu'il dévorait furtivement, comme honteux de manger dans la rue. Les maçons me donnent appétit quand je les vois assis sur les trottoirs, mordre au beau mi-temps de leur miche fraîche. Les petits employés aussi me font envie lorsqu'ils reviennent en courant de la boulangerie au bureau, la plume à l'oreille, la bouche pleine, tout réjouis de ce repas au grand air. Mais ici, on sentait la honte de la vraie faim. Et c'était pitié de voir ce malheureux n'osant manger que par miettes le pain qu'il broyait au fond de sa poche. Je le suivais depuis un moment quand, tout à coup, comme il arrive souvent dans ses existences déroutées, il changea brusquement de direction et d'idée, et, en se retournant, se trouva face à face avec moi. « Tiens, vous voilà !» Par hasard, je le connaissais un peu. C'était un de ces brasseurs d'affaires, comme il en pousse tant entre les pavés de Paris. Homme à invention, fondateur de journaux impossibles, autour duquel il s'était fait pendant un certain temps beaucoup de réclames et de bruits imprimés, et qui depuis 3 mois avait disparu dans un formidable plongeon. Après un bouillonnement de quelques jours à l'endroit de sa chute, le flot s'était uni, refermé, et il n'avait plus été question de lui. En me voyant, il se troubla, et pour couper court à toute question, sans doute aussi pour détourner mon regard de sa tenue sordide et de son sou de pain, il se mit à me parler très vite, d'un ton faussement joyeux. Ses affaires allaient très bien, très bien. Ça n'avait été qu'un temps d'arrêt. En ce moment, il tenait une affaire magnifique, un grand journal industriel à images. Beaucoup d'argent, un traité d'annonce superbe. Et sa figure s'animait en parlant, sa taille se redressait. Peu à peu, il prit un ton protecteur, comme s'il était déjà dans son bureau de rédaction. Me demanda même des articles. « Et vous savez, » ajouta-t-il d'un air de triomphe, « c'est une affaire sûre. Je commence avec 300 000 francs que m'a promis Girardin. Girardin !» C'est bien le nom qui vient toujours à la bouche des visionnaires. Quand on le prononce devant moi, ce nom, il me semble voir des quartiers neufs, de grandes bâtisses inachevées, des journaux tout frais imprimés avec des listes d'actionnaires et d'administrateurs. Que de fois j'ai entendu dire à propos de projets insensés, il faudra parler de ça à Girardin. Et lui aussi, le pauvre diable, cette idée lui était venue de parler de ça à Girardin. Toute la nuit, il avait dû préparer son plan, aligner des chiffres. Puis, il était sorti et en marchant, en s'agitant, l'affaire était devenue si belle qu'au moment de notre rencontre, il lui paraissait impossible que Girardin lui refusât ses 300 000 francs. En disant qu'on les lui avait promis, le malheureux ne mentait pas. Il ne faisait que continuer son rêve. Pendant qu'il me parlait, nous étions bousculés, poussés contre le mur. C'était sur le trottoir d'une de ces rues si agitées qui vont de la bourse à la banque, pleines de gens pressés, distraits. Tout à leur affaire, boutiquiers anxieux courant retirer leurs billets, petits boursiers à figure basse qui se jettent des chiffres à l'oreille en passant. Et d'entendre tous ces beaux projets au milieu de cette foule, dans ce quartier, le spéculateur où l'on sent comme la hâte et la fièvre des jeux de hasard, cela me donnait le frisson d'une histoire de naufrage racontée en pleine mer. Je voyais réellement tout ce que cet homme me disait. Ses catastrophes sur d'autres visages et ses espoirs rayonnants dans d'autres yeux égarés. Il me quitta brusquement, comme il m'avait abordé, jeté à corps perdu dans ce tourbillon de folie, de rêves, de mensonges, ce que ces gens-là appellent d'un ton sérieux « les affaires ». Au bout de 5 minutes, je l'avais oublié. Mais, le soir, rentré chez moi, quand je secouais avec la poussière des rues toutes les tristesses de la journée, je revis cette figure tourmentée et pâle, le petit pain d'un sou, et le geste qui soulignait ses paroles fastueuses. « Avec 300 000 francs que m'a promis Girardin !»